Oui, Albanadejo passe la balle à Patrice Delbourg qui dribble et passe à Suarez. Ils sont merveilleux. Oh, Suarez passe à Lyotard. La défense du Real Saint-Germain reste clouée sur place, chers téléspectateurs. Et oh, Lyotard passe à James Joyce qui passe à Pand qui lui repasse. La balle, décidément, les joueurs du Real Saint-Germain ne peuvent rien faire contre une telle attaque. On entend d'ici Joyce qui fonce tout droit vers les buts. Joyce qui crie « Oui, je veux bien, oui, je veux bien, oui !» Gide, le terrible gardien Gide, se dandine comme un ours bardé de ses genouillères, de ses accoudières, de ses ventripotières. Il est énorme entre les deux barres blanches. Joyce fonce toujours. Il est tout près, oui. Il en a, il est entre les deux poteaux. La foule hurle debout. Vous les entendez d'ici, oui, il shoot, oui, but, il a marqué, but, oui.
Vous êtes toujours sur FPP 106.3 FM, Voix du Texte. Aujourd'hui, l'émission est dédiée au thème de l'aliénation au travail. Parler de l'aliénation au travail, parler de la souffrance au travail, c'est très vite parler de l'école, du travail à la chaîne ou de la guerre.
17, 18, 19, 20.
Juliette, cette histoire est invraisemblable. Tellement invraisemblable que je ne vois vraiment pas ce qui a pu...
Ben c'est que tu es aveugle. Tu ne comprends donc pas qu'il fallait qu'il croie en quelque chose, en n'importe quoi, qu'il les sorte, qu'il nous sorte de ce dont nous crevons. Oui, à moins d'avoir une idée, une théorie, je ne sais pas, moi. Il nous faut à nous toutes qui sommes ici, croire en quelque chose de vrai, d'un peu faux, de totalement faux, peu importe. Mais pour pouvoir tenir... Simplement, tenir quelques heures, quelques jours encore. Ah, si je pouvais inventer moi aussi...
Ah non ! Il ne va pas encore nous faire le coup du violon ! Si en Serbie on aime le violon, il n'y a pas que des Serbes dans le camp et on n'aime pas beaucoup. Il voudrait peut-être que du camp des femmes on lui jette à travers les barbelés quelques phénigues pour sa romance, l'imbécile ! Et personne ne lui en jettera des phénigues ! D'abord parce que personne n'en a. Et ensuite parce que personne n'a envie de lui en jeter. Et même les Espagnols ne lui enverront pas une de leurs pauvres petites cigarettes faites à la main. Personne ne lui jettera rien. Mais lui, il continuera à jouer du violon. Il continuera à se raconter des histoires, croyant qu'un beau jour, peut-être à la longue, tout de même...
Je t'en prie, on parlait. Le violon lui-même est moins gênant que tes conversations perpétuelles et inutiles. Tu disais, Juliette, si tu pouvais inventer quoi ?
Une petite histoire, ou une grande histoire, même absolument fausse, mais qui me permettrait de ne pas avoir trop peur.
Alors qu'au même feu rouge, les mêmes images refont les blessures profondes, devant celles des guerres, les mêmes imagines, des gens vus ici mille fois dans la rue crier et pleurer, les larmes de ceux qui ont vécu ça ne sont qu'une neige d'écran à nos yeux. Notre réalité est une usine, des nuées de voix noircissent ses bouts. La violence y meurt aveugle, puisque faire confiance au savoir, c'est faire confiance au roi. Et ce fossé, les mots ne peuvent le combler sans en maquiller les plaies. Si les mots étaient des armes, est-ce qu'il resterait le seul moyen de conciliation, comme on le dit partout? Parce que chacun est armé des siens contre ceux des autres, et que c'est le but dans lequel on les utilise qui compte. Et s'il fallait chercher un but, faudrait-il un verre de plus pour voir ce dont on est capable? Ou se cacher dans une forêt, ou suivre les traces de ceux qui passent sur le feu?
On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy? Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs et c'était arrivé. Le colonel ne bronchait toujours pas. Je le regardais recevoir sur le talus des petites lettres du général qu'il déchirait ensuite menues, les ayant lues sans hâte, entre les balles. Dans aucune d'elles, il n'y avait donc l'ordre d'arrêter net cette abomination. On ne lui disait donc pas d'en haut qu'il y avait méprise. Abominable erreur, mal donne, qu'on s'était trompé, que c'était des manœuvres pour rire, qu'on en avait voulu faire, et pas des assassinats. Mais non, continuez, colonel, vous êtes dans la bonne voie. Voilà sans doute ce que lui écrivait le général des entrailles de la division, notre chef à tous, dont il recevait une enveloppe chaque 5 minutes par un agent de liaison que la peur rendait chaque fois un peu plus vert et foireux. J'en aurais fait mon frère peureux de ce garçon-là. Mais on n'avait pas le temps de fraterniser non plus. Donc, pas d'erreur. Ce qu'on faisait à se tirer dessus comme ça, sans même se voir, n'était pas défendu. Cela faisait partie des choses qu'on peut faire sans mériter une bonne engueulade. C'était même reconnu, encouragé, sans doute par les gens sérieux, comme le tirage au sort, les fiançailles, la chasse à cour. Rien à dire, je venais de découvrir d'un coup la guerre tout entière. J'étais dépucelé. Faut être à peu près seul devant elle comme je l'étais à ce moment-là, pour bien la voir, la vache, en face et de profil. On venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face, et à présent ça brûlait, comme le courant entre les deux charbons dans la lampe à arc. Et il n'était pas prêt de s'éteindre, le charbon. On y passerait tous, le colonel comme les autres, tout mariole qu'il semblait être, et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la mienne quand le courant d'en face lui passera entre les deux épaules. Combien de temps faudrait-il qu'ils durent leur délire pour qu'ils s'arrêtent, épuisés enfin, ces monstres? Combien de temps un accès comme celui-ci peut-il bien durer? Des mois? Des années? Combien? Peut-être jusqu'à la mort de tout le monde, de tous les fous, jusqu'au dernier? Et puisque les événements prenaient ce tour désespéré, je me décidai à risquer le tout pour le tout, à tenter la dernière démarche, la suprême, essayer, moi, tout seul, d'arrêter la guerre.
Notre intelligence est un calcul. Au moment opportun, il faut savoir convaincre quelqu'un. Faire correspondre les apparences selon les critères admis par la correspondance. Entre ce qui est dit et ce qui est vrai, il y a 1 000 milliards de dollars. Et entre ce qui est dit et ce qui est fait, les intérêts. Chacun y trouve le sien, ça en rajoute un autre. D'ici qu'en rajoute un autre, en rajoute un autre, il n'y a qu'un pas. Et s'il faut le franchir pour y trouver le sien, chacun le franchira. Il viendra ensuite expliquer jusqu'à quel point, sous les apparences, l'intelligence mène le combat. Ces mensonges réduisent tout espoir en poussière. Pourquoi s'en préoccuper si ça ne doit jamais changer?
2 années passèrent. Je triomphai de la règle de 3. J'appris, avec une joie inépuisable, l'existence du lac Titicaca. Puis Louis X le hutin, hibou chou-genou, et ses règles désolantes qui affolent les participes passés.
Eh bien, j'ai la même impression quand je lis un livre. Quand je vois un livre, on me demande ce que je fais. Ben, je regarde un livre, ben, j'ai l'impression de gens qui font des grimaces. Ils font des singeries, tout à fait inutiles. Ils ne vont pas directement dans le sujet. Ils tournent autour, ils s'avancent des chaises, ils font des petites grimaces, ils font des prologues, mais ils ne vont pas directement au nerf, n'est-ce pas? À l'émotion, ça, ils n'y vont pas du tout. Alors, voilà, moi, pour te dire, ben, je regarde les romans de mes contemporains, ben, je dis que ça signifie déjà du travail, mais du travail inutile. Voilà ce que j'en pense. Et alors, parce que ils ne sont pas à la mesure de l'époque, ni dans le temps de l'époque. Et le temps de l'époque, eh ben, mon Dieu, c'est un temps où il faut tenir compte que le roman, puisqu'il s'agit de roman, puisque c'est là-dessus qu'on me demande de donner ma pensée, ben, le roman n'a plus la mission qu'il avait. Il n'est plus un organe d'information. Du temps de Balzac, on apprenait la vie d'un médecin de campagne dans Balzac. Du temps de Flaubert, la vie de l'adultère dans Bovary, etc., etc. Maintenant, nous sommes renseignés sur tous ces chapitres, énormément renseignés, et par la presse, et par les tribunaux, et par la télévision, et par les enquêtes médico-sociales. Oh, il y a des histoires. Il y en a, avec des documents, des photographies. Oh, mais il n'y a plus besoin de tout ça. Je trouve que le rôle documentaire et même psychologique du roman est terminé. Voilà mon impression. C'est une impression. Et alors, qu'est-ce qu'il lui reste? Ben, il lui reste pas grand-chose. Et il lui reste le style et puis les circonstances où le bonhomme se trouve.
Ça fait 27 ans que je travaille pour cet écœurant-là. J'ai rien que 45 ans. C'est quasiment drôle quand tu penses que t'as commencé à travailler pour un gars que t'as haï à l'âge de 18 ans, puis que t'es encore là, à le servir. Il en reste encore trop des gars poignés comme moi. Aujourd'hui, les enfants s'instruisent, puis ils vont peut-être s'arranger pour pas connaître ce que j'ai connu, hostie. Toute ta tabernacle de vie, à faire la même tabernacle d'affaires en arrière de la même tabernacle de machine. Toute ta vie, t'es spécialisé, mon petit gars. Remercie le bon Dieu, t'es pas journalier. T'as une job stidée, le rêve de tous les hommes. Le travail fixe. Y a-tu quelque chose de plus écœurant dans la vie qu'un travail fixe? Tu viens que t'es tellement spécialisé dans ton travail fixe que tu fais partie de ta tabernacle de machine. C'est elle qui te mène. C'est plus toi qui regarde quand elle va faire défaut. C'est elle qui regarde quand tu vas y tourner le dos pour pouvoir te chier dans le dos, sacrement. Ta machine, tu la connais tellement, là, que c'est comme si t'étais venu au monde avec. C'est comme si ça avait été ta première bébelle, hostie. Quand je me suis attelé à cette ciboire de machine-là, j'étais quasiment encore un enfant. Et puis il me reste 20 ans à faire. Mais dans 20 ans, je serai même plus un homme. J'ai déjà l'air d'une loque. Dans 20 ans, mon petit gars, c'est pas toi, c'est ta machine qui va prendre sa retraite. Je suis spécialisé. Bah le bon Dieu, je le remercie pas pantoute. Puis je l'ai dans le cul, le bon Dieu. Puis à part ça, c'est même pas pour toi que tu travailles. Non, c'est pour ta famille. Tu prends tout l'argent que t'as gagné en suant, puis en sacrant comme un damné, là. Puis tu la donnes toute, au grand complet, à ta famille à toi. Une autre belle invention du bon Dieu. 4 grandes gueules, toutes grandes ouvertes, puis toutes prêtes à mordre quand t'arrives, le jeudi soir. Puis quand t'arrives pas tout de suite, le jeudi soir, parce que ça te tentait d'avoir un peu de fun avec les tchoums. Puis que t'as été boire à la taverne. Ta chienne de famille est mort, pour vrai. Ok. 5 minutes, il te reste plus une crise de scène noire dans les poches. Puis tu brailles comme un veau dans ton lit. Puis ta famille, elle dit que c'est parce que t'es saoul. Puis elle va compter à tout le monde que t'es un sans-cœur. Bah oui, t'es un sans-cœur. Il faut pas te le cacher. T'es un sans-cœur, Léopold. Le bouffon s'adressa en ces termes à Zarathoustra. Ô Zarathoustra, c'est ici la grande ville. Tu n'as rien à gagner ici. Et tout à perdre. Pourquoi voudrais-tu patauger dans cette boue? Aie pitié de ton pied, crache plutôt sur la porte de la ville et fais demi-tour. Ici, c'est l'enfer pour les pensées des ermites. Ici, les grandes pensées sont rôties toutes vives et réduites à force de cuisson. Ici pourrissent tous les grands sentiments. On ne doit entendre ici que le craquement sec de petits sentiments secs et craquants. Ne sens-tu pas l'odeur des abattoirs et des gargotes de l'esprit? Cette ville n'est-elle pas toute fumante des exhalaisons de l'esprit abattu? Ne vois-tu pas les âmes accrochées comme des loques ramollies et sales? Et de ces loques, par-dessus le marché, ils font encore des journaux. N'entends-tu pas comme l'esprit est ici devenu jeu de mots? Il dégorge une ignoble eau de vaisselle de mots. Et de cette eau de vaisselle de mots, ils font encore des journaux. Ils excitent et ils s'excitent les uns les autres et ne savent pas vers quoi. Ils s'échauffent les uns les autres et ne savent pas pourquoi. Ils font retentir leur ferraille et sonner leur or. Ils sont froids et cherchent de la chaleur à l'aide d'eau de vie. Ils sont échauffés et cherchent la fraîcheur auprès d'esprits gelés. Ils sont tous rendus malades et tous contaminés par les opinions. Toutes les débauches et tous les vices sont ici, chez eux. Mais il y a aussi beaucoup de gens vertueux. Il y a beaucoup de vertus employables et employées. Beaucoup de vertus zélées, avec des doigts qui aiment écrire. Beaucoup de vertus ronds de cuir et sachant attendre, récompensées à l'aide de petites étoiles pour mettre sur la poitrine, et de filles de bonne famille avec des croupions artificiels et rembourrés. Et il y a aussi beaucoup de piété. Et beaucoup de pieux lécheurs de bottes, beaucoup de fabricants de flatteries pour Dieu et pour le Dieu des armées. D'en haut, il est vrai, s'égoutte l'étoile et la bave bienveillante. C'est vers le haut que voudrait aller toute poitrine sans étoile. La lune a sa cour et la cour son bétail, courtisan. Le peuple mendiant et toute la vertu mendiante zélée vénèrent tout ce qui vient de la cour. Je sers. Tu sers, nous servons. Voilà la prière que la vertu zélée fait monter vers le prince, pour que l'étoile méritée vienne enfin s'attacher à l'étroite poitrine. Mais la lune gravite encore autour de tout ce qui est terrestre. Ainsi, le prince tourne lui aussi autour de ce qui est le plus terrestre. Mais cela, ce n'est rien d'autre que l'or des épiciers. Le dieu des armées n'est pas un dieu des lingots. Le prince propose, mais l'épicier dispose. Au nom de tout ce qui est lumineux et fort et bon en toi, ô Zarathoustra, crache sur cette ville d'épiciers. Et fais demi-tour. Ici, tout le sang coule, déjà pourri, tiède, mousseux, à travers toutes les veines. Crache sur la grande ville qui est le grand égout, et toutes les écumes se rassemblent et moussent. Crache sur la ville des âmes aplaties et des poitrines étroites, des yeux envieux, des doigts poisseux. Crache sur la ville des importuns, des impertinents, des criailleurs et des écrivailleurs, des ambitieux surchauffés. Crache sur la ville où tout ce qui est carrié, louche, débauché, sombre, putrescent, purulent et comploteur se rassemble et fermente. Crache sur la grande ville et fais demi-tour. Vous êtes toujours sur FPP 106.3 FM, Voix du texte. Aujourd'hui, l'émission est dédiée au thème de l'aliénation au travail. Parler de l'aliénation au travail, parler de la souffrance au travail, c'est très vite parler de l'école, du travail à la chaîne ou de la guerre. Pour Lola, venir me voir dans cette espèce de prison, c'était encore une aventure. Nous deux, on pleurait pas. On n'avait nulle part où les prendre, nous, les larmes. « Est-ce vrai que vous soyez réellement devenu fou ?» me demande-t-elle un jeudi. « Je le suis. »« Alors on va vous soigner ici. » »« On ne soigne pas la peur, Lola. »« Vous avez donc tant peur que ça ?»« Et plus que ça encore, Lola. »« La guerre. »« Ah, mais vous êtes répugnant comme un rat. » « Ah, mais vous êtes tout à fait lâche !»« Eh oui, tout à fait lâche, Lola, tout à fait lâche !»« Je refuse la guerre, tout net !»« Je ne me résigne pas, moi !»« Je ne pleurniche pas dessus, moi !»« Je la refuse, tout net, avec tous les hommes qu'elle contient !»« Serait-il 995 millions et moi, tout seul, c'est eux qui ont tort, Lola !»« Et c'est moi qui ai raison !»« Parce que je suis le seul à savoir ce que je veux !»« Je ne veux plus mourir !» « Ah, mais c'est impossible, Ferdinand, de refuser la guerre, » elle me dit, elle. « Il n'y a que les fous et les lâches qui refusent la guerre quand la patrie est en danger. »« Eh bien, vive les fous et les lâches, Lola. »« Ou plutôt, survivent les fous et les lâches. »« Vous souvenez-vous d'un seul nom, par exemple, Lola, d'un de ces soldats tués pendant la guerre de 100 ans ?»« Avez-vous jamais cherché à en connaître un seul de ces noms ?» Non, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais cherché. Ils vous sont plus indifférents et anonymes que le dernier atome de ce presse-papier, là, devant vous, que votre crotte du matin. Vous voyez bien qu'ils sont morts pour rien, pour absolument rien du tout, ces crétins. Je vous l'affirme, la preuve est faite. Il n'y a que la vie qui compte. Je vous fais le pari que dans 10 000 ans d'ici, cette guerre, aussi mémorable qu'elle nous paraisse à présent, sera complètement oubliée. À peine si une douzaine d'érudits se chamailleront par-ci, par-là, à son occasion, et à propos des dates, des principales hécatombes dont elle fut illustrée. La mort, hein. C'est tout ce que les hommes ont réussi à trouver de mémorable au sujet les uns des autres, à quelques siècles, à quelques heures, et même à quelques années de distance. Je ne crois pas à l'avenir, Lola. Méprisable, elle m'a jugé. Définitivement. En la reconduisant jusqu'au portillon de notre hôpital, ce soir-là, elle ne m'embrassa pas. C'est un trou de verdure où chante une rivière. accrochant follement aux herbes des haillons d'argent où le soleil de la montagne fière lui. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine. Tranquille, il a deux trous rouges au côté droit.
On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes les haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans les frais cressons bleus, dort. Il est étendu dans l'air, sous la nue, pâle sur son hiver, où la lumière bleue. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père. J'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président.
Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Hiver, saison des tracas de la nature, saison de misère, saison de la froidure et des pieds gelés, saison de l'attente, saison de la terre que l'on ne peut briser, saison des vents qui gercent et qui coupent la peau, saison de ration, de faim, de soif et d'une intendance qui ne suit plus, saison de pillage et de rapine dans des maisons vides, Noël sans messie, sans étoiles et sans paille propre, Noël sans bois, Noël sans feu, Noël sans cheminée, Noël sans femme, sans vieillard et sans enfant. Saison des poux, des puces et des parasites. Saison des maladies, saison des neiges salies rougies par les entrailles humaines. Saison des punitions, des permissions annulées, des brimades hiérarchiques. Saison de discipline, saison de boue, de bise et de glace. Saison des trêves officieuses et des fraternisations d'un soir. Saison des colis, des chaussettes tricotées et des ceintures de flanelle. Saison de beuverie. Saison de la vinasse et de l'alcool de bois, saison troglodyte. Saison gluante et visqueuse, saison de fièvre, de frissons, de spasmes et de dysenterie. Saison des rats, saison de crasse, de corps sales qui ne se dévêtent plus. Saison des cadavres mal enterrés, saison des conseils de guerre hystériques et bâclés. Saison des fusillés de Vingré ou d'ailleurs. Saison des putains laides, vieilles et usées. Saison de toutes les véroles. Saison du manque d'amour et du besoin de chaleur humaine. Saison entre hommes, saison des amours interdites, saison du givre, sur les vitraux obscurs des églises fermées, saison d'un dieu sourd et des prières que personne n'écoute.
A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
Septembre 1914. Comment décrire? Quel mot prendre? Tout à l'heure, nous avons traversé Meaux, encore figé dans l'immobilité et le silence. Meaux avec ses bateaux lavoirs coulés dans la Marne et son pont détruit. Puis nous avons pris la route de Soissons et gravi la côte qui nous élevait sur le plateau du Nord. Et alors subitement, comme si un rideau de théâtre s'était levé devant nous, le champ de bataille nous est apparu dans toute son horreur. Des cadavres allemands ici, sur le bord de la route, là dans les ravins et les champs, des cadavres noirâtres, verdâtres, décomposés, autour desquels, sous le soleil de septembre, bourdonnent des essaims de mouches. Des cadavres d'hommes, qui ont gardé des poses étranges, les genoux pliés en l'air ou le bras appuyé au talus de la tranchée. Des cadavres de chevaux, plus douloureux encore que des cadavres d'hommes, avec des entrailles répandues sur le sol. Des cadavres qu'on recouvre de chaux ou de paille, de terre ou de sable, et qu'on calcine et qu'on enterre. Une odeur effroyable. Une odeur de charnier monte de toute cette pourriture. Elle nous prend à la gorge, et pendant 4 heures, elle ne nous abandonnera pas. Au moment où je trace ces lignes, je la sens encore éparse autour de moi, qui me fait chavirer le cœur. En vain, le vent soufflant en rafale sur la plaine s'efforçait-il de balayer tout cela. Il arrivait à chasser les tourbillons de fumée qui s'élevaient de tous ces tas brûlants, mais il n'arrivait pas à chasser l'odeur de la mort. Champ de bataille, ai-je dit plus haut? Non, pas champ de bataille, mais champ de carnage.
By giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be.
Automne, saison de pluie, de terre et de feuilles mortes, saison des lignes de front et des hommes qui s'enterrent entre la mer et la montagne, comme pour franchir à tempérament une partie du chemin qui mène vers la tombe. Automne, saison de la mort, saison des jours qui raccourcissent, saison des blessures infectées, tranchées taillées à vif dans la glaise humide des coteaux et des plaines, tranchées taillées à blanc dans des bataillons de chair humaine, dans la peau tendre des coups, des ventres et des poignets, saison de la souffrance et des corps mutilés, agonie des blessés qui appellent une mer trop lointaine, cri des blessés qu'on achève, sueur de brume qui suintent au ras du sol, charniers sans nombre où les hommes pourrissent, visage couché sous les feuilles, bataille, bataille, saison des chevaux morts et des corbeaux qui passent, fête des morts, cimetières défoncés, cimetières improvisés, souvenirs anticipés de ceux qui vont encore mourir, saison du marbre qui viendra plus tard sceller la gueule terreuse des fosses communes, automne, saison de ruines, saison des deuils et des forêts humides, saison du déclin, saison de l'acier qui rouille et du métal tordu, saison des vendanges, 1 million de morts français après seulement 5 mois de guerre, 1/4 démobilisés de la première heure, saison des veuves voilées, des mères brisées, des fiancées à garde et des jeunes mariés vieillis. Contraste obscène du tissu noir et du deuil sur la peau blanche des femmes solitaires, saison des eaux croupies dans les trous d'obus où viennent se désaltérer les damnés de la terre labourés par l'enfer quand ils ne viennent pas boire dans la gourde des morts. Automne, saison des labours et des semailles, saison de la terre qui reprend ses droits et qui se nourrit des âmes qu'elle enfouit.
A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
Février 1916. La traversée de Commercy se fit au pas cadencé, armes sur l'épaule. Il importait de ne pas offrir le spectacle d'un troupeau incohérent et flasque. Montrer à la population les signes extérieurs d'une troupe organisée et disciplinée. Dieu que c'est long ce bourg. Si je traînais au pas un sabre à gland de crin, comme je penserais différemment, sans doute. Mais ma baïonnette s'empêtre dans mes cuisses, mon col tiré en arrière m'étrangle. Une, deux, vas-y, c'est beau. Regardez, bourgeois, notre pas cadencé permet à votre volaille de cuire en son four. Par hasard, en levant les yeux, j'aperçus une fillette jolie et mièvre un peu. À voir ses yeux émus et admiratifs, j'ai compris que sans doute nous étions beaux et grands. Nous allions par là-bas où l'on meurt, où l'on est défiguré, haché, déchiré. Et nous y allons, au pas, au son des cuivres aigus. Nous portons dans nos cartouchières la mort. Nos fusils tuent. Nous sommes forts et doux, peut-être. Nous sommes une bête formidable qui pourrait broyer cet enfant sans la voir, sans entendre ses cris et sa plainte. Son admiration est un vague effroi et de piété. Nous sommes un énorme troupeau de formidables douleurs. Nous sommes un rempart des joies de l'amour, du bonheur. Sans accepter cette tâche, nous mourrons pour elle. Peut-être cette enfant ignorante, naïve, coquette, ne l'a-t-elle pas compris? Mais elle l'a senti. Son regard me réchauffe. Son admiration m'a fait tendre le jarret. Son sourire m'a donné du cœur. Elle était peut-être tout simplement jolie. À mes côtés, sous son regard, mes camarades, eux aussi, se sont redressés. 1000 rêves ont peut-être caressé leurs pensées. Un charme sensible paraît les avoir touchés. Et parce qu'une fillette les voyait, ils eurent un regard plus serein et plus clair, une démarche plus ferme, un front plus guerrier. La foi me manque. J'ai une foi stérile et creuse. Elle ne sert pas de moule à ma vie. Elle n'entretient pas une mystique à mes actions. Elle n'éveille qu'occasionnellement ma soumission. Mes nerfs crient et se froissent à certaines imaginations, et dans mon chaos, je ne trouve de cause et de raison à mes souffrances que le besoin de jouir et de paraître chez 1000 qui ne sont point à la peine. Et je refuse de souffrir pour leur donner des honneurs ou de la joie, des richesses et des maîtresses jeunes, jolies et parfumées. Je ne suis pas assez austère pour agréer l'attente de ces maîtres, et j'ai l'estomac trop vide. Je suis trop sale et j'ai trop de poux. Je ne peux croire que c'est le fumier qui fait la rose et que notre pourriture empuantée par le camp et la tranchée, que notre révolte, que notre douleur feront de la justice ou du bonheur. Et quel égoïsme de dire à son frère « Tu mourras pour que je sois heureux ». N'est-ce pas là toute la guerre, et ce calcul n'est-il pas le squelette effarant qu'on cache sous les oripeaux d'honneur, de devoirs militaires, de sacrifices? Chaque putain de guerre représente les 1000 douleurs de celui qui la porte, 1000 morts de ceux que le combat a fauchés, et les 1000 jouissances des ventres et des bas-ventres de l'arrière. Voilà ce qu'elle crie, cette putain de guerre. Celui qui me porte est un naïf, qui croit que les mots cachent des idées, que les idées feront du bonheur, et qui n'a pas vu quel bacchanal son dévouement permettait derrière le mur formidable des discours, des proclamations, des compliments et de la censure. La marque extérieure de la distinction du militaire est la blancheur des mains. Je m'efforce de soigner les miennes. C'est un besoin, surtout quand j'ai le cerveau clair. Si bien qu'en regardant mes mains, je vois la netteté de mon esprit. Et des jours, j'ai les mains bougrement sales. D'autres jours, je les admire et les contemple. Elles semblent vivantes d'une autre vie que la matérielle. Je sens en les voyant ce que je peux entreprendre, comme d'autres voient ce qu'ils peuvent saisir. La main ne montre pas que des déformations professionnelles. Elle est la preuve d'une mentalité.
A working class hero is something to be. Working class hero is something to be.
La propagande bat déjà son plein, mais beaucoup d'hommes ordinaires ne s'y laissent pas prendre et ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive lorsqu'ils délaissent soudainement et dans l'angoisse leur famille et leur emploi. Ils n'ont pas abandonné les bancs de l'école depuis si longtemps, ces 4 millions de Français mobilisés de la première heure. Conscrits de fraîche date, réservistes et rappes les plus âgés qui s'en vont vêtus de leurs pantalons rouges et de leurs manteaux bleus, la tête rasée, sans casque, à travers les champs remplis de coquelicots et de bleuets, comme pour des grandes manœuvres estivales, que seules les longues marches forcées et la lourdeur du barda arrivent à différencier des exercices du temps de paix. Les paysans sont soucieux. Qui va moissonner? Qui va finir de rentrer la paille? Qui va labourer? Qui va vendanger? La moisson ne peut qu'être meurtrière, et la vendange sanglante. Beaucoup ne vont pas survivre à ce premier été. Ils vont tomber, sous les balles des mitrailleuses ennemies. Ils vont finir crucifiés dans le piège carnivore des fils de fer barbelés. Ils vont être pulvérisés sous des tapis d'obus. Ils vont être les premières victimes de la guerre, mais aussi celles des erreurs d'une hiérarchie militaire incompétente qui brille encore par le culte du sabre, de la baïonnette et du clairon, et par le mépris de l'artillerie lourde. Et ils vont tomber à l'époque de la rentrée des classes, comme Charles Péguy, comme Alain Fournier, et comme tant d'autres. Un sixième des tués de la Grande Guerre, disparu pendant les 2 premiers mois d'un conflit qui durera plus de 4 ans. Plus de 140 000 en 5 jours d'été, 27 000 pour la seule journée du 22 août 14, la plus meurtrière de tous les temps. Et leurs papiers militaires vont être déposés, avec leurs plaques, dans une bouteille renversée, fichée dans la glaise, au pied d'une croix sommaire, ou d'un fusil, brisé, planté, la crosse en l'air. Les premiers vont disparaître à l'ouest de la Moselle, au fil des premières défaites qui vont déclencher un véritable exode de populations civiles sur les routes de France et une formidable retraite franco-anglaise. Et l'armée allemande va s'arrêter à 40 kilomètres de Paris, stoppée par la première bataille de la Marne. Mais il y aura d'autres premiers étés, d'autres baptêmes du feu, pour 4 millions d'autres jeunes Français mobilisés pendant les 4 années à venir. Premier été, saison de la déchirure, des premiers combats, des premières boucheries.
On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens. On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens.
Vous êtes toujours sur FPP 106.3 FM, Voix du Texte. Aujourd'hui, l'émission est dédiée au thème de l'aliénation au travail. Parler de l'aliénation au travail, parler de la souffrance au travail, c'est très vite parler de l'école, du travail à l'usine, de la guerre.
working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
C'est un appareil très curieux, dit l'officier à l'explorateur, en jetant sur cette machine qu'il connaissait pourtant fort bien un certain regard d'admiration. L'explorateur semblait n'avoir déféré que par politesse à l'invitation du commandant, qu'il avait prié de venir assister à l'exécution d'un soldat condamné pour indiscipline et outrage à un supérieur. L'intérêt de l'opération était d'ailleurs restreint dans cette colonie. On ne voyait dans la vallée, une cuvette de sable profonde entourée de pentes nues, on ne voyait là, outre l'officier et l'explorateur, que le condamné, un homme stupide à grande bouche, à la tête sale et aux cheveux crasseux, et un soldat portant la lourde chaîne d'où partaient les chaînes plus minces qui chargeaient les pieds, les chevilles et le cou du bagnard. Elles étaient reliées entre elles par d'autres chaînes. Le condamné avait d'ailleurs l'air si caninement résigné qu'il semblait qu'on eût pu le laisser courir en liberté sur les pentes et qu'il aurait suffi de siffler pour le faire venir à l'heure de l'exécution.
La porte s'est refermée lourdement. Je suis seule dans la nuit. À peine ai-je pu apercevoir les murs nus de la cellule. En tâtonnant, je trouve le bas-flanc et sa couverture rugueuse et m'y allonge, en essayant de renouer avec le rêve interrompu. Tout à l'heure, je marchais sur un chemin éclairé par la lune. Une lumière si douce, si bienfaisante, et des voix m'appelaient. Soudain, il n'y eut plus que le faisceau d'une lanterne, le visage effaré de notre chef de baraque, l'ordre rauque de me lever, et l'ombre de deux SS. Cauchemar ou réalité? Bâti et Félicité, mes voisines de paillasse, se sont réveillées. Elles ont rassemblé quelques objets, dont mon car et ma gamelle, m'ont aidé à descendre du chalet, m'ont embrassé. Quel sort m'attend? Il arrive que les exécutions aient lieu ainsi de nuit. Pour le moment, je suis dans un bâtiment à l'intérieur du camp de Ravensbrück, appelé bunker. C'est une prison qui sert aussi de cachot. En ce cas, il n'y a pas de couverture, ni de paillasse. Le pain est distribué tous les 3 jours, la soupe tous les 5 jours. La condamnation au bunker est accompagnée d'une bastonnade, 25, 50 ou 75 coups auxquels la détenue survit rarement. Nous savons tout cela au camp, et aussi que des jeunes femmes, cobayes humains, ont subi dans ce lieu les horribles expériences du professeur Gebhardt. Il y a quelques jours, nous avons fêté ensemble mon anniversaire. Sur le gâteau pour lequel chacune a apporté un peu de mie de pain, pétri avec quelques cuillerées de cette sorte de mélasse qu'on appelle confiture, 24 brindilles figuraient les bougies dans un décor de feuilles cueillies en hâte pendant le travail de terrassement au bord du marais. Un vrai moment de bonheur. La sirène de fin d'appel au travail met les colonnes en marche. Du fond de ma nuit, j'entends le bruit sourd des semelles de bois, à peine les aboiements des chiens et les cris rauques des SS. Me voici très loin, comme au fond d'un puits, où je mourrais peu à peu en silence. Et si la porte s'ouvrait, serait-ce pour marcher vers le couloir des exécutions? Il est près d'ici, de l'autre côté du mur d'enceinte qui longe le bunker, non loin des fours crématoires dont la fumée panache le ciel. Dois-je me préparer à mourir? Personne ne pourra m'aider, au moins en me tenant la main, comme je l'ai fait souvent pendant l'agonie d'une camarade. Les derniers visages regardés seront marqués par le mépris et la haine. Ne plus y penser. Oubliez bien sûr ma famille pour ne pas perdre courage. Plus difficile de prendre congé de Germaine, de Jacqueline, de Daniel, de Milena, de Grete, de tant d'autres dont la fraternelle affection m'a permis de survivre. Sauront-elles quelque chose de ma fin? Une robe trouée de balles tachée de sang, un nom rayé sur les registres du camp. Ainsi avons-nous appris le sort d'autres disparus dans la nuit. Mais elles-mêmes, que deviendront-elles? Se trouvera-t-il des survivantes parmi nous? Quelles seront dans les mois qui suivent leurs plus terribles épreuves? Le débarquement a eu lieu, même le journal SS a dû le reconnaître. Mais depuis, nous savons que de durs combats se poursuivent. Passer un nouvel hiver au camp est une pensée intolérable. J'essaie de prier. Le « Notre Père », le « Je vous salue Marie », des fragments de psaumes. Du fond de l'abîme, moi aussi j'appelle Dieu, comme l'ont fait tant d'autres. J'essaie de me remettre à la miséricorde du Père, de m'unir à l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Ce n'est même pas un silence qui me répond, mais la misérable rumeur de ma détresse.
Voilà, qui m'ont dit. Vous pouvez pas vous tromper, c'est juste en face de vous. Et j'ai vu en effet les grands bâtiments trapus et vitrés, des sortes de cages à mouches sans fin dans lesquelles on discernait des hommes à remuer, mais remuer à peine, comme s'ils ne se débattaient plus que faiblement contre je ne sais quoi d'impossible. C'était ça, Ford. Et puis tout autour et au-dessus, jusqu'au ciel, un bruit lourd et multiple et sourd, de torrents d'appareils durs, l'entêtement des mécaniques à tourner, rouler, gémir, toujours prêtes à casser et ne cassant jamais. C'est donc ici que je me suis dit, eh ben c'est pas excitant. C'était même pire que tout le reste. Je me suis approché de plus près, jusqu'à la porte, où c'était écrit sur une ardoise. Qu'on demandait du monde. J'étais pas le seul à attendre. Un de ceux qui patientait là m'a appris qu'il y était depuis 2 jours, et au même endroit encore. Il était venu de Yougoslavie, ce brebis, pour se faire embaucher. Un autre miteux m'a adressé la parole. Il venait bosser qui prétendait, rien que pour son plaisir, un maniaque, un bluffeur. Dans cette foule, presque personne ne parlait l'anglais. Ils s'épiaient entre eux comme des bêtes sans confiance, souvent battues. De leur masse montait l'odeur d'entrejambes urineux, comme à l'hôpital. Quand ils vous parlaient, on évitait leur bouche. À cause que le dedans des pauvres, ça sent déjà la mort. Il pleuvait sur notre petite foule. Les fils se tenaient comprimés sous les gouttières. C'est très compressible, les gens qui cherchent du boulot. Ce qu'il trouvait de bien chez Ford, que m'a expliqué le vieux russe aux confidences, c'est qu'on y embauchait n'importe qui et n'importe quoi. Seulement, on prend garde, qu'il m'a ajouté pour ma gouverne. Faut pas crâner chez lui, parce que si tu crânes, on te foutra à la porte en moins de 2, et tu seras remplacé en moins de 2 aussi par une des machines mécaniques qu'il a, toujours prête, et t'auras le bonsoir alors pour y retourner. Parlez bien le parigo, le russe. À cause qu'il avait été taxi. C'était vrai, ce qu'il m'expliquait. Comprenait n'importe qui chez Ford. Il avait pas menti. Je me méfiais quand même parce que les miteux, ça délire facilement. Il y a un moment de la misère où l'esprit n'est plus déjà tout le temps avec le corps. Il s'y trouve vraiment trop mal. C'est déjà presque une âme qui vous parle. Et c'est pas responsable, une âme. À poil, qu'on nous a mis, pour commencer, bien entendu. La visite, ça se passait dans une sorte de laboratoire. Nous défilions lentement. Vous êtes bien mal foutu, qu'a constaté l'infirmier en me regardant d'abord. Mais ça fait rien. Et moi qui avais eu peur qu'il me refuse au boulot à cause des fièvres. Les fièvres d'Afrique. Rien que s'il s'en apercevait par hasard, il me tâtait les foies. Mais au contraire, il semblait l'air bien content de trouver des moches et des infirmes dans notre arrivage. Pour ce que vous ferez ici, ça n'a pas d'importance comment que vous êtes foutu, m'a assuré le médecin, examinateur, tout de suite. Tant mieux que j'ai répondu, moi. Mais vous savez, monsieur, j'ai de l'instruction, et même j'ai entrepris des études médicales autrefois. Du coup, il m'a regardé d'un sale œil. J'ai senti que je venais de gaffer, une fois de plus, et à mon détriment. « Ça vous servira à rien ici, vos études, mon garçon.
Vous n'êtes pas venu ici pour penser, mais pour faire des gestes qu'on vous commandera d'exécuter. Nous n'avons pas besoin d'imaginatifs dans notre usine.
C'est des chimpanzés dont nous avons besoin.
Un conseil encore. Ne nous parlez plus jamais de votre intelligence. On pensera pour vous, mon ami.
Tenez-vous-le pour dit.
Il avait raison de me prévenir. Valait mieux que je sache à quoi m'en tenir sur les habitudes de la maison. Des bêtises, j'en avais assez à mon actif tel quel pour 10 ans, au moins. Je tenais désormais à passer pour un petit peinard. Une fois rhabillés, nous fûmes répartis en files traînardes par groupes hésitants, en renfort, vers ces endroits d'où nous arrivaient des fracas énormes de la mécanique. Tout tremblait dans l'immense édifice, et soi-même des pieds aux oreilles, possédés par le tremblement. Il en venait des vitres et du plancher, de la ferraille, des secousses, vibrer de haut en bas. On en devenait machine aussi, soi-même, à force, et de toute sa viande encore, tremblotante, dans ce bruit de rage énorme qui vous prenait le dedans et le tour de la tête, et plus bas, vous agitant les tripes, et remontait aux yeux par petits coups précipités, infinis, inlassables. À mesure qu'on avançait, on les perdait, les compagnons. On leur faisait un petit sourire à ceux-là en les quittant comme si tout ce qui se passait était bien gentil. On ne pouvait plus ni se parler ni s'entendre. Il en restait à chaque fois 3 ou 4 autour d'une machine. On résiste, tout de même. On a du mal à se dégoûter de sa substance. On voudrait bien arrêter tout ça pour qu'on y réfléchisse et entendre en soi son cœur battre facilement. Mais ça ne se peut plus. Ça ne peut plus finir. Elle est en catastrophe, cette infinie boîte aux aciers. Et nous, on tourne dedans, et avec les machines, et avec la terre, tous ensemble. Et les 1000 roulettes et les pilons qui ne tombent jamais en même temps, avec des bruits qui s'écrasent les uns contre les autres, et certains si violents qu'ils déclenchent autour d'eux comme des espèces de silences, qui vous font un peu de bien.
Je m'appelle Maurice Drange, j'ai 26 ans, je suis originaire de la région du Mans, Fresnay-sur-Sarthe précisément, où mes parents sont commerçants. Je me suis fiancé l'an dernier avec Georgette Clabot, une jeune orpheline que j'ai rencontrée lors d'une permission. Je pense à elle et à tout ce qui me fait oublier cette guerre.
À peine arrivé, les sacs débouclés, vite, en quête de pinard. Cher, 0,80 francs le rouge. Ouais, tant pis. Malgré la température un peu basse, on a chaud, et 1 litre, c'est 100 centilitres. 1 centilitre, c'est pas grand, et 100, c'est pas un si gros chiffre. Allons-y pour 200.
Je m'appelle Lazare Silbermann, je suis tailleur pour dames, réfugié roumain et engagé volontaire. En ce début de guerre, j'écris une lettre testament à ma femme, Sally, et à mes 4 enfants. Paris, le 7 août 1914. Ma chère Sally, avant de partir faire mon devoir envers notre pays d'adoption, la France, que nous n'avions jamais eu à nous plaindre, il est de mon devoir de te faire quelques recommandations, car je ne sais pas si je reviendrai. En lisant cette lettre, bien entendu, je n'y serai plus, puisqu'il est stipulé qu'il ne faut pas ouvrir la lettre qu'après ma mort. 1. Tu trouveras dans le coffre-fort 4 lettres, que tu les remettras à qui de droit. 2. Tu trouveras un papier timbré de mon actif et de mon passif, où il est bien stipulé que tu es, avec nos chers enfants, les seuls héritiers du peu, malheureusement, qu'il reste de moi. Bien sûr, ma chère, je sais que je te laisse dans la misère, car tout cela présente beaucoup et en réalité ne présente rien. Je te laisse un gros fardeau que d'élever 4 petits orphelins, que pourtant j'aurais voulu les voir heureux, car tu le sais que je n'ai jamais rien fait pour moi.
On a raison de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense, d'être ce qu'on est, de continuer dans le même sens.
Vous avez pu entendre pendant 7 heures de Voix du texte des extraits de Pièces radiophoniques d'Arthur Adamoff, Voyage au bout de la nuit et Céline vous parle de Céline, La gloire de mon père de Marcel Pagnol, À toi pour toujours ta Marie-Lou de Michel Tremblay, Ainsi parlait Zarathoustra de Friedrich Nietzsche, Le dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, Le déserteur de Boris Vian, des extraits de lettres et carnets de poilus introduits par les saisons de Jean-Pierre Guénaud, dans la colonie pénitentiaire de Franz Kafka, la traversée de la nuit de Geneviève de Gaulle Antonioz, d'autres extraits encore des lettres et carnets de poilus, le tout était accompagné d'extraits de l'album L'Enfer tiède du groupe Programme et du morceau Working Class Hero de John Lennon.
Voix du texte se termine, merci beaucoup de l'avoir écouté. J'espère que vous ne vous êtes pas senti agressé par le ton légèrement saccadé, mais comment être autre chose qu'agressif quand on parle de souffrance au travail ?
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.